archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal. Je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, c'est la cinquième saison, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger Chin 3. Je suis Reda Menassel en compagnie de l'inamovible Lamine B derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale, la toute première de la saison 5, chapeautée par nos anciens et vénérables chroniqueurs, Hinde Benranam et Karim Barek, avec en guise d'inviter la nouvelle cohorte des chroniqueurs de Médiatique. En l'occurrence, Monsieur Mehdi Bourahla, ingénieur logiciel expert en intelligence artificielle, accompagné de Maître Sofiane Kemer, juriste international. Et tout ça, bien autre chose encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci.
Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6 Alger Chin 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Et c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai l'honneur et le plaisir de vous retrouver pour cette cinquième saison déjà de Médiatique avec les anciens chroniqueurs, ceux qui ont fait le sel, la pâte de l'émission, en l'occurrence l'inénarrable Hinde Benranam. Bonsoir.
Bonsoir chers amis.
5 saisons déjà.
Déjà, on est ça là. Ne nous rajeunit pas du tout.
Mais si, on est toujours jeune. La preuve, Karim Barak n'a pas pris un ride. Bonsoir Karim.
Bonsoir, comme ça fait unique. Mais c'est toujours un plaisir d'entendre. Mais surtout la première de la saison, c'est toujours agréable de découvrir aussi de nouveaux chroniqueurs.
C'est ce que disait Frank Herbert dans son prélude à Dune. Hein. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Et on va tenter d'être délicat avec les nouveaux qui viennent de rejoindre la cohorte des chroniqueurs de l'émission. On va commencer par Maître Sofiane Kemer, juriste international, mais pas que. Marhaba bek.
Bonsoir, merci beaucoup.
Avec plaisir. Petite présentation de ta personne. Qui es-tu ?
Alors, je suis donc Sofiane, juriste de formation. J'ai également un institut de formation et de conseil dédié à l'intelligence artificielle.
D'accord. Ah, tu vas bien t'entendre avec Mahdi.
On s'entend voilà. Déjà très bien. Ouais.
Et moi, je vous entends.
C'est le plus également. Important. Ton parcours, ton cursus, qu'est-ce qui t'a amené vers le droit, premièrement, et vers cet intérêt concernant les nouvelles technologies ?
Alors, ce qui m'a amené vers le droit, c'est, pour tout vous dire, mes parents, dans un premier temps.
C'est une tradition familiale.
C'était une exigence familiale.
Ah, d'accord.
Et donc, j'ai fait mon droit en France, à Paris. J'ai très vite commencé dans l'entrepreneuriat, d'abord dans l'immobilier, puis après, avec mon frère à qui je suis associé, on a tous deux cette passion de ce qui est IT. Mmh. Et on a décidé de, pour une fois, faire quelque chose qui nous plaît, se tourner dans un domaine qui nous plaisait. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, de mon côté, à m'intéresser très vite à la réglementation internationale.
Que tu dissèques notamment sur LinkedIn, voilà.
Exactement.
Il y a beaucoup de choses qui circulent à droite et à gauche, et tu es justement là pour démêler le vrai du faux.
Exactement, et puis j'essaie d'amener un point de vue global. C'est comme on se disait tout à l'heure, l'important, en fait, dans la réglementation informatique, mmh. Il faut absolument voir à l'échelle du monde. Parce qu'aujourd'hui, on a beau être un acteur algérien, une entreprise algérienne, vous allez utiliser Google.
Tout à fait.
Donc Google qui est soumis au droit américain. Il faut savoir du coup tout ce qui en découle. Il faut être conscient de tout ça pour pouvoir gérer au mieux son activité, se préserver et puis surtout se conformer maintenant.
Ce que disait John Doe, aucun homme n'est une île. Voilà.
Exactement.
On donne la parole à notre ami Mahdi Bourahla, qui est ingénieur logiciel, expert en IA, mais pas que. Fais-nous rêver.
Merci pour cette présentation. Donc...
Merci. Surtout que tu as fait le même, il a eu la même bourse que Dolph Lundgren. Voilà, ouais, je n'en dis pas plus.
Juste en passant.
Okay, c'est la Fulbright, bien évidemment.
C'est la Fulbright. Ah, ben laisse-moi me présenter.
Que j'ai eu la chance d'avoir dans mon équipe en 2017.
Ah, le monde est petit.
Eh ben, oui, même pour Karim, j'étais à l'Algérie 2.0, j'étais avec lui. Donc,
je connais
tout le monde ici, je connais déjà tout le monde. Ok, donc... je suis le newbie de l'équipe, présentateur enfin en IA. Donc Mahdi Bourahla, je suis ingénieur en IA, d'accord. Mmh. Je suis formé aux États-Unis.
Qu'est-ce qui t'a amené dans cette spécialité spécifiquement ?
La technologie en général, ça m'a toujours intrigué depuis que j'ai 6 ans. Je suis une chaîne sur Game One. Bon, je suis l'actualité technologique depuis que je suis tout petit.
Et je suis ami avec Marcus, Kayane. Prochain passage en Algérie, je te présente avec grand plaisir.
Ok, on y est. C'est ça au fait.
Ça, c'est de la motivation pour qu'ils reviennent pour les autres émissions.
Exactement.
Et que, voilà.
C'est ça au fait. Ce qui m'a plus donné envie, c'était ça. Parce que j'ai grandi en regardant des émissions télé.
De vulgarisation, scientifique.
Donc je me suis dit, j'ai toujours eu cet esprit très curieux. Mm-hmm. Je me suis dit, quand je vais grandir, je vais construire ça au fait. Et ce qui est arrivé. j'ai commencé mes études ici en Algérie, à Blida. J'ai fait ingénierie logicielle et puis ça commençait à l'intérêt en intelligence artificielle. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un deuxième master. Mm-hmm. Et donc mon deuxième master c'était aux États-Unis via la bourse Fulbright c'est comme ça que l'aventure a commencé quoi.
Très bien. Et tes projets pour l'Algérie maintenant, c'est toujours l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a de l'enseignement aussi quelque part.
Oui au fait, depuis que je suis revenu et même avant, ce que je faisais c'était de la vulgarisation, c'est-à-dire j'essaye, d'où mon surnom Newbie, j'essaye toujours de vulgariser la technologie, l'informatique, l'intelligence artificielle d'une manière très facile. Beaucoup de gens, ils pensent que l'IA, il faut vraiment être un génie pour comprendre, alors que non. Pour moi, il suffit juste de vouloir, au fait. J'ai eu la chance de former des enfants, des personnes très âgées comme Karim.
Comme Karim.
Le missile qui vient de nulle part. L'attaque gratuite.
Il se venge parce que tout à l'heure on a eu une discussion en bas et je pensais que j'étais vieux.
C'est plusieurs épisodes. Très bien.
Et donc, ben, je suis toujours sorti de ces workshops ou bien de ces formations, très content parce que les participants ils comprenaient ce qui se passait. Bon, après on part pas dans les détails, hein. Je vais pas les enseigner les maths qu'il y a derrière.
Mais juste comprendre le principe.
Comprendre le principe. Et c'est exactement le but de ce que je vais faire avec Radio Chaîne 3, avec toi, Reda, c'est justement de faire ça au fait.
Très bien. On fait une petite pause musicale. On revient juste après pour détailler les sujets que nous allons évidemment aborder pour cette cinquième saison. Lamine B, la piste est à toi.
State of mind. Said DJ, play that sad song one more time. After party high, I keep searching for the signs in the neon light. We're never going home tonight. Life is a dream, we'll sleep when we die. No, we're never going home tonight. Hold on to me, it's a hell of a ride. Harder than I speeding in a drop top when it's running from a cop. I can make your wild thoughts sweeter than a lemon drop. We're never going home before last call. Yeah, baby, who says I can't have it all? We're never going home tonight. Life is a dream, we'll sleep when we die. No, we're never going home tonight. Hold on to me, it's a hell of a ride. Harder than a heartthrob, speeding in a drop top when it's running from a cop.
Présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger Chin 3.
Et voilà, les présentations sont faites. Balle au centre, Hind de Benrenner.
Je suis très ravie de vous retrouver pour la cinquième édition de Mediatix. Donc c'est un espace qui effectivement nous permet chaque jeudi de proposer à nos chers auditeurs des nouveautés dans le domaine des TIC, mais aussi des solutions innovantes dans tous les domaines pratiquement.
C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas.
Voilà, et il faut savoir que la numérisation aujourd'hui, c'est un changement consenti et puis soutenu par l'État, mais donc il y a toujours des mais, et c'est en corrigeant les mais qu'on peut aspirer à la perfection. Donc,
quelle sagesse millénaire.
Il le faut bien. Donc, pour cette nouvelle saison, je veux encore une fois aborder certains sujets qui pour moi sont primordiaux. Donc, il y a 5 principaux axes.
D'accord.
D'un, je reviens à chaque fois au sujet de la compétence et donc des compétences dans le secteur, que ce soit des TIC ou même les porteurs
de
l'entrepreneuriat de manière générale, et puis l'innovation, donc les porteurs de projets réellement innovants, parce que c'est ce dont on a besoin. La souplesse administrative, puisque nous observons toujours une certaine lenteur dans l'application de certaines procédures qui ailleurs sont plutôt souples.
Et aussi, on va en parler avec Maître Kemel.
Voilà, je dirais même banal d'ailleurs, soutenu par notre expert dans le juridique international notamment. Le financement et l'accompagnement des startups, parce que c'est le seul et réel modèle qui fait que les startups réussissent et aboutissent à de réels projets.
Ça aussi, ça se discute.
Tout n'est pas rose,
mais pas noir non plus.
Tout à fait. L'implication aussi des entreprises pour parrainer et soutenir ces mêmes startups, parce que il faut parler de ce qu'on appelle les angel business, etc.
Business angels.
Donc cet esprit qui n'est pas très très pratiqué donc chez nous. Hélas. Et puis un dernier
point. Mais il y a eu des initiatives, je pense à celle de Hakim Soufi
mais
notamment.
Elle reste timide. Donc là, il faut
que. Donc, tu penses qu'il n'y a pas de réelle implication des mastodontes de l'industrie, de l'économie algérienne en direction des petits porteurs de projets.
Tu sais quoi ? Alors il y a même des porteurs de projets qui ont le cran de développer certaines solutions effectivement innovantes, mais qui restent coûteuses. Et donc ils n'arrivent pas à placer ces solutions sur le marché algérien parce que justement les entrepreneurs n'ont pas le cran d'acheter et d'acquérir ces nouvelles solutions. Donc, acheter des solutions algériennes bien de chez nous, c'est aussi un cran.
On changerait comment, d'après toi, Mehdi, cette mentalité, cette crainte de donner sa chance aux jeunes entrepreneurs ? Parce que je sais que tu travailles aussi beaucoup avec les startups, notamment.
Oui, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette crainte de changer, au fait. C'est, comment on appelle ça déjà ?
Sortir d'une certaine zone de confort.
Sortir d'une zone de confort, aller vers le nouveau. Il y a beaucoup, déjà, lorsqu'on est dans une certaine solution, bien dans une certaine entreprise où tout marche déjà, et on se dit pourquoi aller changer, pourquoi changer quelque chose qui marche. Alors que dans les TIC, si on reste toujours dans la même démarche, on se fait écraser généralement. Qu'il y a toujours une concurrence qu'il faut assurer. C'est pour ça qu'il faut
sortir. C'est un secteur où l'obsolescence est prépondérante. Hein. On est très très rapidement has-been. Voilà. Il faut être à jour et tenter.
Donc c'est pour ça que ces nouvelles technologies, c'est non seulement un challenge, mais aussi une opportunité pour non seulement les jeunes, mais aussi les entreprises pour avancer.
Alors aussi, moi je voulais rajouter le dernier axe. C'est qu'aujourd'hui, on connaît l'IA. Mais l'IA est pratiquement utilisée comme un moteur de recherche maintenant. Comment doit-on utiliser l'IA tout en étant plus intelligent ? Et bien évidemment, l'aspect protection, donc l'aspect juridique, comment allons-nous nous protéger ?
Comment dépasser les statuts LinkedIn avec ChatGPT et en faire vraiment quelque chose d'utile.
D'ailleurs, je suis convaincue que beaucoup d'entre, enfin quand je dis d'entre nous, un écosystème, donc ça regroupe les industriels et enfin tous les opérateurs économiques qui aujourd'hui ont du mal à rédiger un contrat quand il s'agit donc de solutions numériques. On ne le sait pas.
Ah oui.
Ah oui. Vraiment.
Tu l'as remarqué ça, Sofiane ?
Il faut être sur le marché algérien pour le constater.
C'est vrai. J'ai pas encore assez de recul, moi, par rapport au marché algérien, mais c'est vrai que on a de la part des entreprises, Ce sont des nouvelles problématiques qui s'ajoutent et auxquelles il faut s'adapter. Et pour l'instant, surtout avec l'IA, on n'a pas encore suffisamment de recul. Les entreprises n'ont pas encore assez de recul pour appréhender correctement la question et poser des bases juridiques saines dans les relations.
C'est un problème à travers le monde, c'est-à-dire c'est pas spécifique à l'Algérie. Parce que maintenant, on utilise. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec vous, parce que personnellement, comme toute technologie, il faudrait laisser les choses fonctionner, voir les dérives, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles se feront, et après réguler.
Si je peux me permettre une remarque, là, c'est exactement le point de vue américain. On laisse faire.
Ah, merci, je suis vieux américain. Aujourd'hui, on parle à l'école.
C'est ça, on laisse faire et on voit ensuite ce qu'il faut réglementer.
Voilà.
Alors que l'européen, si on réglemente,
il se protège d'abord.
Voilà. Mais on réglemente, on enferme.
Mais si on réglemente avant, on bloque l'innovation. C'est-à-dire, on va fermer sur le droit de domaine.
Bien sûr.
Personne ne pourra dépasser certaines limites pour innover.
On va prendre un exemple très simple que nos auditeurs connaissent. Vous souvenez de la grande mode des call centers en Algérie. Oui. Il y a une petite dizaine d'années, ça avait champignonné partout, etc. Ça avait duré 2-3 ans avant que la réglementation ne rattrape le secteur. Oui. Résultat, la réglementation était très maladroite, était très très sévère, et la grande majorité a été obligée de fermer. parce que c'était des conditions, bon, je suis pas businessman non plus, mais c'était des conditions draconiennes, et rares étaient les call centers capables de s'adapter à cette réglementation.
Oui, mais ça fait un peu longtemps. C'est-à-dire, maintenant, je pense, d'après ce que je vois, ça a changé un petit peu. On essaie d'impliquer les acteurs économiques. Pas dans tout ce qui se fait comme loi, etc. Mais on consulte beaucoup les gens du domaine.
Mais en quoi c'est compliqué pour un néophyte, par exemple? Un parlementaire met en place une commission d'experts et met à jour sa proposition de loi. En quoi c'est un grand chantier et c'est difficile à mettre en place?
Bon, c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit impliquer les gens du domaine. C'est-à-dire, si vous voulez faire une loi sur un téléviseur, il est à côté de moi, ou un écran, il faudrait que je ramène les personnes qui le fabriquent ou le vendent. Quelles sont vos difficultés? Pourquoi vous n'arrivez pas à vendre beaucoup plus, à fabriquer beaucoup plus? Et c'est à partir de là, plutôt aussi, donc qu'est-ce qui vous gêne à faire cela? Qu'est-ce qui vous gêne à faire ça? Et là, si j'étais administrateur, je ferais tout pour faciliter pour que ces entreprises fabriquent plus et vendent plus et génèrent beaucoup plus d'argent.
Autre exemple, vous connaissez la domotique. La domotique, pendant de longues années, ils ont laissé faire. Après, la réglementation a rattrapé tout ça. Et ça a été très sévère. Encore une fois, de nombreuses entreprises ont fermé. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne marche à suivre. Autant poser les règles du jeu dès le départ et laisser les gens investir en leur âme et conscience.
Et je te réponds que je m'excuse.
Mais on est une émission où on n'est pas obligé d'être d'accord et c'est ça qui est formidable.
Je m'excuse sur ma façon de voir les choses parce que maintenant, c'est... Quand on parle de domotique, par exemple...
C'est un exemple,
illustrer... Oui, c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est figé, c'est carré. On peut juste ajouter quelques options, etc. Claquer des mains, fermer la porte ou diriger en
ville
de prendre...
Non, mais c'était surtout les ondes, la longueur d'onde, etc. Voilà, pour raisons sécuritaires, notamment.
IoT, tu veux parler de IoT?
Ah, aussi.
Voilà. Ben, l'essentiel, c'est que, en parlant d'IA... Toute la nouvelle façon de réfléchir, la nouvelle façon de régler des problèmes, la nouvelle façon d'aborder certaines complexités de réflexion, etc. C'est une autre façon de réfléchir qui est imposée en ce moment. Pourquoi? Si tu te rappelles, il y a quelques années, on avait parlé que à cause de l'IA, maintenant les jeunes ne vont pas, ou à la calculatrice, les jeunes ne vont pas savoir calculer 1 plus 1 égale combien.
Ça, c'est mon postulat.
Voilà, tu te souviens. Et ne pourront plus comprendre comment résoudre.
Il y a des études qui prouvent que j'ai raison.
Oui,
pour
mais attends,
je suis
attends.
D'accord pour ça.
Mais je t'avais dit à l'époque que dans 10 ans, dans 5 ans, la référence d'être cultivé sera différente. C'est-à-dire pour nous. Un enfant qui ne sait pas 3 fois 3 ou 3 plus 3 fois combien, il sera sur le Hubs. Mais dans 5 ans, il n'aura même pas besoin de prouver que cette formule, démontrer cette formule.
Je t'avais rétorqué qu'il fallait un socle de connaissances minimal.
Oui, il y aura d'autres repères, d'autres façons de peser qu'on ne connaît pas maintenant. De peser ou de qualifier une certaine connaissance.
Mais tu peux pas te projeter sur un paradigme qui n'existe pas. Tu peux pas dire dans le futur peut-être qu'il y aurait d'autres paramètres.
Non, ça c'est moi. Comme je l'avais prédit avant qu'il y aura une effervescence de start-up.
Merci,
en Algérie. Non, en Algérie il y aura une effervescence de start-up, de technologie, etc.
C'est vrai, Sakellem a été l'un des premiers à y croire et à se battre pour ça.
Ça s'est avéré, et pourquoi pas, on peut rêver, c'est ça.
Mm-hmm. Oui. Moi je reviens sur l'aspect juridique, c'est-à-dire que quand on pond des lois, on est censé consulter les acteurs du numérique. Parce que nous, réellement, on n'est pas très nombreux en Algérie et en aucun moment un parlementaire s'est adressé à nous pour nous dire comment rédiger telle ou telle loi? Est-ce qu'elle convient?
Alors ça, c'est fait. Je vais faire l'avocat du diable, notamment via Le GAN qui soumettait des livres blancs, etc.
C'est vrai, mais...
Voilà. Ça reste insuffisant. Ça c'est subjectif. C'est l'avis de chacun. Voilà. Mais voilà, ça a quand même été fait.
Voilà.
Oui, mais après ce serait vraiment une erreur d'estimer que l'IA, c'est une technologie comme une autre. Bien, c'est une révolution comme une autre, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça marche, l'IA. Et c'est l'expert qui vous parle.
C'est-à-dire
C'est vraiment...
C'est quoi cette bombe qui vient d'être lâchée en direct à 18h27 sur la chaîne?
C'est vraiment difficile de dire que je suis expert de quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais en fait, c'est ça le truc.
Enfin, si on comprend comment ça fonctionne, c'est des mathématiques, c'est des sources qui se recoupent.
D'accord,
etc.
Mais ensuite derrière, ok, bon, je vais être un petit peu technique, mais si c'est quelque chose d'un petit modèle par exemple, ok, peut-être qu'on peut expliquer comment ça marche. Mais ensuite, les gros modèles qu'on a aujourd'hui, tels que bon, vous avez tous entendu parler de ChatGPT, c'est des modèles tellement grands, tellement entraînés sur tout Internet et bien plus que ça, que c'est devenu une boîte noire à l'intérieur.
Même si tu as remarqué, elle est le problème des hallucinations.
Exactement.
Personne n'est arrivé à expliquer pourquoi cette intelligence artificielle a des hallucinations.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a tout un domaine de recherche qui s'appelle Explainable AI, c'est-à-dire il y a des chercheurs, des docteurs qui sont là juste pour expliquer comment ça marche, au fait. Donc si on ne comprend pas exactement comment ça marche, ça sera difficile de mettre une juridiction derrière. Donc c'est pour ça que je me dis que pour l'instant, on est toujours en train d'explorer, mais il faut toujours encadré, au fait. Par exemple, aujourd'hui, l'utilisation de l'IA, si on prend dans l'éducation, il y a aujourd'hui des institutions qui disent que voilà, on a notre propre IA qu'on va utiliser dans notre institution. Par exemple,
qui est entraîné,
on va dire, sur le cursus scolaire. D'accord ? On va pas utiliser ChatGPT qui est un petit peu général sur un cursus scolaire, par exemple.
Mais
beaucoup de gens disent entraîner alors qu'en réalité, ils sont pas entraînés. C'est des prompts. L'entraînement, c'est autre chose, c'est plus compliqué, on a besoin beaucoup de plus de serveurs, de cartes graphiques, de data center.
C'est quoi la différence, tiens, pour nos auditeurs ? Quand on dit nourrir la machine.
D'accord, nourrir la machine, c'est sûrement Mehdi va expliquer mieux que moi, mais globalement, comme moi je connais, tout ce qui est entraînement, j'ai ma propre intelligence artificielle dans mon serveur ou dans mon PC, etc. En réalité, c'est des prompts qu'on lui donne.
Qu'on met en place et que la machine ressort lorsqu'elle est sollicitée.
Voilà. Mais quand on dit du fine tuning, c'est des langages, je sais pas comment ça se passe en Python ou quelque chose. C'est construire carrément, indexer des informations, savoir les
récupérer.
Voilà. Mehdi, tu peux nous aider sur ça.
Ok, donc je suis désolé, Karim, mais c'est pas ça.
On apprend à tout âge.
Ah, il est bien le nouveau chroniqueur, il est très bien.
Tu as fait plaisir à l'aider.
Ah, mais clairement.
Non, mais c'est une idée reçue, au fait. C'est une idée reçue parce que aujourd'hui, on connaît, la majorité des gens, ils connaissent l'intelligence artificielle à partir de ChatGPT, au fait.
C'est ça. Et ce n'est pas ça.
Le terme entraîné, c'est venu avec le prompt, au fait.
Voilà.
Mais le terme exactement de training, d'entraînement d'un modèle, c'est au fait faire passer un gros volume de données, des datasets. Attends, c'est un énorme volume de données.
D'accord.
Aujourd'hui sur ChatGPT, c'est tout Internet.
Tout Internet.
Ce n'est pas du prompt, au fait.
Voilà.
C'est que au départ, lorsque tu prends un ChatGPT, le modèle qui est vide, qui n'a rien encore appris, ben ça sait même pas formuler une phrase.
Ouais.
Tu dois attendre jusqu'à ce que ça soit entraîné sur tout Internet pour que ça puisse comprendre ce qu'est une phrase, ce qu'est un mot, ce qu'est un paragraphe.
Voilà. D'accord ?
Ça, c'est ce qu'on appelle du pré-training. Mmh. D'accord ? C'est faire en sorte que notre modèle comprenne la langue.
Il comprenne
pas
des
seulement,
bases, voilà.
Pas seulement l'anglais, mais toutes les langues aussi.
Mmh. Le dialecte aussi de chez nous. Maintenant,
ChatGPT parle.
Donc, c'est exponentiel.
Dialecte.
Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle maintenant, beaucoup de gens l'appellent training, c'est-à-dire je suis en train de personnaliser mon modèle.
Personnaliser par rapport à des choses qu'il connaît déjà, qui a été déjà entraîné sur ça. Par exemple, si tu prends, tous les gens connaissent ChatGPT, ChatGPT, si tu le prends avec ta tête, vous lui donnez un prompt, il répond standard.
Oui.
Mais si vous lui donnez un rôle d'être un ingénieur en intelligence artificielle, là il va récupérer tout le savoir qu'il a dans sa mémoire d'intelligence artificielle et va vous aider, vous soutenir. C'est ça, c'est ce que j'ai dit.
Le terme exact ici c'est pas du training, mais c'est du prompt engineering.
Voilà,
c'est de donner un rôle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent training et qui veulent entendre pas là, je donne un rôle à un ChatGPT, c'est du training. Non, c'est pas du training.
Et c'est customisé
en fonction de ses propres besoins.
On a notre propre intelligence artificielle. C'est ça le problème.
D'accord.
Alors que ils ont donné juste un prompt qui adaptent leur métier ou connaissent leur métier.
Exactement. Sofiane, vous voulez intervenir.
Alors oui, pour revenir à la question de est-ce qu'il faut réglementer avant ou après. De ton discours, je ressors un mot qui est revenu à chaque fois, c'est sévère. Il y a deux conceptions de la réglementation. Est-ce qu'on réglemente pour être sévère, et donc on va taper sur une innovation, l'encadrer, l'enserrer, ou alors est-ce qu'on l'accompagne ? Et c'est là, en fait, que tout se joue, je pense. Et je pense qu'on devrait, au contraire, la laisser se développer parce que c'est un peu comme un enfant. Mm-hmm. Faut la laisser un peu faire ses bêtises, faut la laisser un peu trébucher.
Pour intervenir par la suite.
Et après, on intervient et on l'éduque et on lui dit non, c'est par là qu'il faut aller et c'est comme ça. Je pense. C'est mon humble avis. Et c'est comme ça qu'on avance. Et surtout, au-delà de rattraper du retard, c'est comme ça qu'on peut prendre de l'avance, nous, ici.
C'est comme ça que ça a été fait dans notre pays, qui ont peut-être la même composition que l'Algérie, la même ouverture, le même boost par rapport aux nouvelles technologies.
Mais les États-Unis, c'est vraiment l'exemple type. Eux, quand on lit leur loi de 2020, ils parlent d'une task force. Ils ont mis en place une task force où ils mettent en commun l'ensemble des ressources de différents services orientés IA. Et on attaque, on prend les données de tout le reste du monde, on entraîne nos modèles et on attaque, on mange tout.
D'accord,
le monde.
Bon, c'est les USA. Voilà. Et pour les pays un peu plus modestes, qui ressembleraient aux nôtres
Par rapport aux pays comme les nôtres, comme le
et
nôtre,
par rapport à une thématique comme l'IA, par exemple, balbutiante
Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore et on intervient surtout sur le...
Je sais que la Jordanie avait mis en place une commission ministérielle très très active pour mettre tout ça et planifier ça ensemble. Il me semble que l'Égypte aussi a de très très bons experts et de très très bons avocats. Je pense que c'est tout. Voilà, c'est les deux seuls pays.
Il n'y a pas grand chose encore et tout se joue pour l'instant sur le sort des données, la protection des données personnelles. C'est le carburant. C'est le carburant de l'IA, je pense que comme je dis, pourra nous le confirmer. Donc pour l'instant, l'ensemble est dirigé sur ça.
Très bien. On refait une petite pause et on revient.
Rock-a-bye. Wish we could turn back time to the good old days. this movie and they must hear. And then we'd fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-Chin-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
18h39 sur les ondes de Radio Alger-Chin-3. Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné de Lamine Bey derrière la vitre et de Hind Benranem et Karim Mbarek, les vétérans de l'émission qui sont en train de bizuter les nouveaux, en l'occurrence Mehdi Bourala et Maître Sofia Kemer. Enfin, la tentative de Karim Mbarek, voilà. Hind, tu voulais intervenir.
Alors, par rapport à l'IA justement, donc, moi qui suis intelligente et pas artificielle.
Et modeste.
Et oui.
Et modeste surtout.
Tellement. Ouais. Et que justement, j'ai vraiment peur que l'intelligence artificielle se trompe. À la limite, si elle se trompe sur la couleur du papier peint que je choisis pour mon salon, il n'y a pas de souci. Mais qu'en est-il quand il s'agit, par exemple, aujourd'hui, des outils IA utilisés dans le diagnostic médical, dans la radiologie, dans des technologies de pointe? Sommes-nous assez certains qu'elle est infaillible?
En fait, c'est une très bonne question et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a sur ChatGPT, vous pouvez voir en bas, ChatGPT can make mistakes.
Ils ont mis ça.
On nous prévient.
Dans toutes les systèmes IA, on a ça aujourd'hui. Et donc
c'est légal, en fait. C'est pour se protéger des implications.
Tout à fait.
Parce que je me souviens, il y a eu un scandale, me semble-t-il, il y a quelques mois, où quelqu'un avait demandé les disponibilités des vols et il s'était trompé. Il avait attaqué la compagnie aérienne en justice. Voilà. Et je pense que ça a été le précédent pour mettre cette mention légale.
Ensuite, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, en fait. L'utilisation de l'IA dans la vie réelle, c'est-à-dire dans l'industrie, ça n'a pas commencé avec ChatGPT, en fait. C'est vraiment ancien. Et il y a eu, vous connaissez tous Tesla, j'imagine.
Oui, bah,
vous connaissez les voitures autonomes.
Elon Musk sera notre invité jeudi prochain.
Donc, les voitures autonomes, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est bien avant que ChatGPT. Et récemment, il y a eu un accident, Tesla, elle avait pris le contrôle de la voiture.
D'accord.
Il y a eu un accident à cause de cela. Mais au final, qui, d'après vous, qui serait fautif dans cette histoire?
C'est une excellente question.
Est-ce que ce serait le conducteur?
Le concepteur?
Est-ce que le concepteur? Qui sera coupable de...
Eh ben, ça tombe bien, puisqu'on a un avocat autour de la table. Excellent. Alors, Sofiane, qui serait condamnable et condamné?
Ça tombe très très bien, parce qu'en plus, sachez que j'ai écrit un essai.
D'accord, sur ce cas de figure.
Exactement, sur la personnalité juridique attribuée à l'IA, qui gagne en autonomie de plus en plus, et qu'on implémente dans du hardware. Donc on rend physique, réellement physique. Et alors, dans l'état actuel, la responsabilité, au vu de la législation, tendrait à peser sur le producteur, le vendeur.
De la voiture ou de l'intelligence artificielle ?
De la voiture qui contient l'intelligence artificielle. Après, c'est toujours de la responsabilité par ricochet. Lui se retournera vers le prestataire qui lui a fourni le modèle d'intelligence artificielle, qui se retournera. Enfin voilà, c'est une.
Pour ce cas de figure que vient d'évoquer Mahdi, c'est le constructeur de la voiture qui est responsable.
Voilà.
D'accord.
Mahdi.
Donc, dans ce cas-là, est-ce que, par exemple, moi, si je développe, bon, je suis un développeur d'intelligence artificielle et je mets sur le marché une IA qui. Je sais, il n'y a pas de 100% dans l'IA, c'est impossible. Si quelqu'un vient vous dire que j'ai une IA à 100%, bah, je lui dis, bah, va revoir ce que tu as fait, c'est impossible, d'accord? Et donc, si je mets en marche une IA qui est pas fiable, bah, c'est moi qui assumerai les conséquences.
Médiatique, présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger-Chin 3.
Et vous l'avez entendu, nous avons une page Facebook, Mediatix-Alger-Chin 3. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez une start-up, si vous avez un projet de recherche scientifique, ou si tout simplement vous voulez passer nous faire un petit coucou. Marhaba bikoum, Sofiane.
Et justement, notre ami Mahdi venait de soulever un réel enjeu, c'est-à-dire la responsabilité du développeur. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il ne faudrait pas les décourager de lancer des modèles d'IA, vous imaginez ? Vous construisez quelque chose, vous le lancez sur le marché, vous êtes responsable pour chacun des utilisateurs. Pardon.
Ça fait peur, effectivement.
Vaut mieux rien faire. Vaut mieux ne plus rien faire.
Mais c'est la même chose pour un constructeur d'avion. Ou pour un...
Exactement, c'est pour ça que sa responsabilité est protégée, est délimitée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je propose, mais c'est l'importance des conditions générales d'utilisation. Il faudrait que, de la part du développeur, ça devienne un véritable contrat qui délimite sa responsabilité à lui, celle de l'utilisateur ou de celui qui va commercialiser le modèle plus tard.
Mais il faudrait qu'il soit au courant de tous les cas de dysfonctionnement qui pourraient exister. Et ça, il ne pourra jamais le savoir.
Tous les risques.
On peut, voilà.
Ça, c'est l'expérience qui peut
Ce qu'il faut, c'est définir l'usage normal.
Ouais.
Dire, moi, mon IA, elle a été créée pour, je ne sais pas, une activité lambda, bah, pour la fabrication d'écrans.
Oui.
Tout ce qui sortira de ce cadre se dégagera de la responsabilité du développeur.
Voilà.
Moi, c'est ça, c'est pas autre chose.
Voilà, je fais que duté.
Oui, mais après, pour revenir à la question de Hind, est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser de l'IA dans des situations critiques ? Par exemple, piloter un avion, par exemple, avec des passagers à l'intérieur, ou bien prendre des décisions médicales. Parce qu'aujourd'hui, si on pose une question à ChatGPT sur une décision médicale, il vous dit que moi, je ne suis pas un docteur, et que vous devriez aller voir un docteur.
Mais à ChatGPT, non, par contre,
il te donne la réponse, mais tu dis, il vaut mieux...
Un disclaimer pour te dire.
Mais pour la détection des cancers, par exemple, on a des IA qui arrivent à des résultats juste extraordinaires, parfois supérieurs
à des oncologues. Ça, c'est un très bon point. C'est un très bon point, Reda. Il faut faire la distinction aussi entre l'IA générative.
C'est
et
ça,
l'IA qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui pour la détection, c'est-à-dire ce qu'on appelle discriminative AI, c'est-à-dire pour faire de la classification, qui est beaucoup utilisée aujourd'hui sur le domaine médical.
Mais c'est des centaines ou peut-être des millions de photos pour, par exemple, détecter les tumeurs, etc. Et généralement, c'est à la fin, c'est au médecin de décider. C'est-à-dire, le diagnostic, il est fait par l'IA, mais il y a toujours des spécialistes après qui vont trancher sur est-ce qu'elle a raison ou pas.
Et jusqu'à quand cette intervention humaine, Mahdi, puis Sofiane ?
Ben pour l'instant, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un IA assistant. Donc tout ce qu'on est en train de faire maintenant, par
parce
exemple,
que là, si les résultats sont supérieurs à ceux d'un médecin, j'allais dire humain. On va dire maintenant médecin humain, précisé. Si la machine se révèle supérieure et plus fiable qu'à l'humain. Pourquoi ne pas déléguer carrément ?
Bah, personnellement, je ne vais pas parler au nom de médecin, mais je vais parler au nom de développeur, parce que c'est ce que je suis et c'est mon travail. Et je pense qu'on peut comparer un petit peu les deux. Aujourd'hui, comment j'utilise l'IA dans mon domaine ? Je l'utilise en tant qu'assistant. C'est-à-dire, j'utilise pour faire...
En un point.
Voilà, pour générer du code. Mais derrière, est-ce que je prends directement et je le mets sur mon système ? Non. Je suis un expert, je prends la décision derrière. D'accord ?
Non, mais si, par exemple, on a des chiffres, l'exemple de Tesla, donc l'humain aussi, quand il conduit son véhicule, il peut perdre connaissance et puis provoquer des accidents.
L'humain est faillible.
Voilà, l'humain est aussi faillible. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres pour voir quel est le ratio donc, entre les risques provoqués par l'IA et ceux de l'humain ? Dans tous les domaines, pas que dans la...
Personnellement, je n'ai pas ces chiffres pour dire, ben, par exemple, si y a eu des dégâts liés à de l'IA ou bien à l'être humain, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus d'accidents liés à l'humain que de l'IA.
Voilà.
Mais ensuite, reste à savoir que la décision prise par l'IA aujourd'hui, elle n'est pas une décision finie. C'est-à-dire qu'elle est toujours assistée par un être humain et elle est toujours alertée par un humain. C'est-à-dire si l'IA, elle juge que je dois freiner, elle va freiner. Parce que c'est une décision préventive. Mm-hmm. Mais il n'y aura pas une décision... c'est-à-dire je vais accélérer, par exemple, parce que ça peut causer des dégâts. Alors que si je m'arrête, il y a moins de risques. Ici, on ne parle pas d'une IA générative, mais c'est une IA discriminative. Lorsqu'on parle d'une IA qui permet
Tu n'as pas répondu à ma question. On peut imaginer 1 an, 2 ans, 10 ans.
Ah ouais, pour revenir.
Avant que ce soit complètement autonome.
C'est très difficile de répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les gérants, on va dire les pionniers de l'IA, lorsqu'on parle de OpenAI et de Claude,
n'arrivent pas à mesurer déjà la vitesse de croissance.
Leur stratégie marketing, c'est qu'ils disent que voilà, on est en train d'arriver à AGI, c'est-à-dire Artificial General Intelligence, c'est elle qui va être supérieure à l'humain, elle va prendre toutes les décisions.
Skynet.
Mais pour moi, exactement, c'est Skynet. Mais pour moi, c'est, d'après ce que je suis en train de voir, et les dernières versions des IA qu'on a eues, c'est une stratégie marketing pour attirer l'attention.
Pour dire la hype.
Ils nous disent que voilà, ils nous vendent du rêve, ils nous disent que d'ici 2027, on va arriver à une IA.
C'est demain, hein.
Voilà, pour dire
est-ce qu'il y a des IA qui se contredisent?
Oui, bien sûr. C'est une nouveauté en 2024-2025, c'est l'IA agentique. C'est-à-dire on est en train d'utiliser plusieurs IA pour répondre à un besoin. C'est-à-dire je demande à une IA de développer un logiciel. Et puis j'ai ChatGPT d'un côté et Claude de l'autre, et je leur dis voilà.
D'ailleurs, il y a une vidéo qui a bien buzzé l'année dernière où deux modèles d'intelligence artificielle ont commencé à discuter ensemble, puis ils ont switché en langage machine.
Oui.
Tu n'as pas vu la vidéo?
Si, je l'ai vu, mais
20 millions, 30 millions de vues, ça a fait un buzz extraordinaire.
Pardon, mais j'ai vraiment du mal à le croire parce que je me dis que c'est fake. Parce que
il faudra qu'on teste en direct dans l'émission.
Ouais. J'ai testé, ça n'a pas marché.
Ouais, ouais. C'est fake.
Ils n'ont pas voulu discuter ensemble.
Des fois, elles se coupent.
Ouais, c'est fake parce que derrière, c'est un programme derrière. Derrière, c'est un programme qui est programmé pour répondre au langage naturel. Ça ne peut vraiment pas répondre à un langage qui n'est pas naturel.
Même s'il développe un sens de l'humour pour nous faire rire.
Oui, mais bon, il faut pas utiliser ChatGPT, il n'est pas aussi drôle que ça. Peut-être qu'il faut utiliser Grok.
Mehdi, il y a une
expérience. Il nous reste à peu près 2 minutes d'émission.
Oui, même pas 2 minutes. Je pense au Japon, j'ai lu ça quelque part. Ils ont pris une intelligence artificielle et l'ont mis dans un bac à sable, c'est-à-dire isolé du réseau. Mm-hmm. Et ils l'ont demandé, par exemple, elle faisait 500 000 calculs par minute. Mm-hmm. C'est pas le chiffre exact, mais et ça l'a bloqué pour trouver une solution. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette intelligence artificielle? C'est réel, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé son code pour enlever la limite pour faire plus de calculs. Parce que son but, c'était de régler le problème.
Elle s'est débridée.
Voilà.
C'est une très bonne question. Peut-être qu'on va terminer cette émission avec cette question. Est-ce qu'on va, si on pose à Nia, on lui dit, vas-y, sauve la planète. Et ben, t'as libre action de faire quoi que ce soit. Ben, la première victime sera l'humanité, au fait.
Exactement.
Et c'est ça, Skynet, au fait.
La pollution.
John Connor, sauve-nous. En tout cas, messieurs, dames, c'était un pur plaisir de vous recevoir et de vous avoir autour de moi pour cette toute première émission de la 5e saison. Merci beaucoup à Lamine B, toujours fidèle derrière la vitre. Et surtout, n'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde, tu connais la formule, et à jeudi prochain.
على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لا تشم تراب بلادي وترسم احجار ومجدك
ميل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لا تشم تراب بلادي ترسم احجار ومجدك نجده
ميل على شاطئ حيف خدلك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار
ميل على شاطئ حيف خدلك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا على صورة العكا مشوار
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك لك القدس وشوارعها وسماها أجمل مكان ميل عنا وسأل عنا احنا للكرم عنوان
واذا بدك تتهنى الناصرة بتبعت سلام قعدت تحلم ميت قلب وجودها حلو الكلام
ميل على وادي عار ركوة القهوة عالنار شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار
ميل على وادي عار وركوة القهوة عالنار شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر
كيف البحر بيضحك لك
لفيت بلاد لفيت ملئت لجمالك ملئت ولا حتى جبالك والورد عصافيرك بتغني يا ليل 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 ليل
دلعون بلادي غنيت وعلمي جانا ربيت وضحية غازل بالدبك وعتر
لحكى يا ستي حنيت ولمتنا بساحة البيت ورغيف الزيت وزعتر شجر الزيتون
ومشيت يا ما وشيت أغلى من بلادي ملقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان
لفيت بلاد لفيت
ملقيت بجمالك ملقيت
ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني
يا بلاد
دلعون بلادي غنيت وعلمي جانا ربيت ضحية غازل بالدبك وعتر
لحكاية يا ستي حنيت لمتنا بساحات البيت ورغيف الزيت وزعتر وشجر الزيتون
ومشيت يا ما وشيت أغلى من بلادي ما لقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان